France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. François Bayrou propose de remettre en chantier le dossier de la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Rosalie Lafarge a suivi le discours de politique générale du Premier ministre. Il n'a pas convaincu les écologistes qui voteront la censure. Réaction plus nuancée des socialistes, nous entendrons Boris Vallaud. Un accord de cessez-le-feu à Gaza imminent selon le Qatar, mais cela fait tanguer la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahou. Nous ferons le point avec Thibault Lefebvre à Jérusalem. L'Ukraine a mené cette nuit une attaque massive contre des sites militaires et industriels en Russie. Nous joindrons notre envoyé spécial, Claude Guibal. Enfin, nous irons en Afrique du Sud, où est menée une opération de sauvetage dans une mine d'or illégale. Une centaine de mineurs seraient morts sous terre de faim et de déshydratation. Ne pas subir le même sort que Michel Barnier et parvenir à un accord de non-censure, c'est l'objectif de François Bayrou. Après de longues tractations, le Premier ministre a prononcé cet après-midi son discours de politique générale à l'Assemblée. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Vous êtes sur place à l'Assemblée. La marge de manœuvre de François Bayrou était très étroite. Il devait faire des concessions à gauche sans pour autant perdre ses alliés de droite. Sur le sujet périlleux des retraites, Rosalie, il annonce finalement qu'il n'y a ni suspension ni abrogation.
Oui, le Premier ministre fait le choix du conclave. François Bayrou juge la réforme des retraites vitale pour notre pays et notre modèle social. Il refuse de tirer un trait dessus, mais elle peut être, il l'avait déjà dit, améliorée.
Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. Nous ne pouvons pas laisser dégrader l'équilibre financier que nous cherchons. Ce serait une faute impardonnable contre notre pays.
Le cadre est fixé, la méthode aussi, une mission flash demandée à la Cour des comptes et un chantier de 3 mois ensuite transféré aux partenaires sociaux.
Je crois qu'ils ont entre les mains une part décisive de notre avenir national.
François Bayrou ouvre la porte à un examen par le Parlement d'un nouvel accord à l'automne ou avant, mais si cet accord n'est pas trouvé, le Premier ministre prévient déjà, c'est la réforme actuelle qui continuera de s'appliquer.
On voit que le Premier ministre s'inscrit dans le temps et donne, au-delà de la réforme des retraites, son cap à moyen et à long terme, Rosalie.
Oui, il promet de traiter tous les dossiers, François Bayrou, à commencer par le plus urgent.
Il faut nous ressaisir pour adopter sans tarder les 2 budgets de l'État et de la Sécurité sociale.
Quelques ajustements, notamment pour les collectivités, et un appel commun à la responsabilité pour ramener le déficit à 5,4% du PIB cette année. Il liste ensuite ses priorités, éducation, outre-mer, transition, sécurité, immigration, tous les ministères y passent. Et puis, le triple candidat à la présidentielle profite du moment pour remettre sur la table certains de ses grands concepts ou vieilles batailles.
Je souhaite la création d'une banque de la démocratie, mais je pense aussi qu'il faut que chacun puisse trouver sa place au sein de la représentation nationale, à proportion des votes qu'il a reçus. C'est là une œuvre de refondation républicaine, une grande œuvre de réconciliation.
Le maire de Pau déroule sans être gêné par les hurlements et le brouhaha, un projet qui ressemble parfois plus à celui d'un président que d'un Premier ministre, avec une proposition.
C'est celle d'une nouvelle promesse française.
Énumérant les dossiers, entrant rarement dans le détail, François Bayrou s'adresse aux Français, se pose en homme de courage, là pour relever les défis, et il reformule ses vœux pour l'année. Stabilité et réconciliation, c'est désormais entre les mains des oppositions.
Rosalie Lafarge en direct de l'Assemblée nationale avec Julien Girard à la technique. Alors à l'issue de ce discours, la droite maintient son soutien au gouvernement, mais qu'en disent les socialistes ? Le compte n'y est pas, déclare le député Boris Vallaud, qui parle toutefois de nouvelles discussions. Écoutez-le.
Vous avez annoncé que tout était négociable, même l'âge de 64 ans. C'est notre demande et la perspective d'une loi avant l'été. Nous la prenons, nous faisons confiance au dialogue social et personne ne se déshonore d'un retour devant les partenaires sociaux. Mais je veux dire aussi que notre objectif demeure l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans et que nous ne pouvons pas nous satisfaire, que s'il n'y a pas d'accord, nous revenions à la loi antérieure. Il n'y aura peut-être pas de consensus, mais nous demandons que cela revienne devant l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, pour faire avancer une cause juste et dont nous sortirions tous grandis. À vous écouter, je dois vous dire que le compte n'y est pas. Où sont vos compromis ? Aujourd'hui, l'avenir de ce pays est entre vos mains, mesdames et messieurs du Bloc central. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs du gouvernement, Nous avons pris nos responsabilités, à vous de prendre les vôtres.
Le député socialiste Boris Vallaud. Le groupe écologiste et social, lui, votera la censure jeudi. Sa chef de file, Cyrielle Chatelain, se dit atterrée par un discours qu'elle juge indigent et flou. L'écologie note-t-elle ses 158 mots au bout d'une heure et quart de discours. Le RN, en revanche, ne votera pas la censure, même si pour Sébastien Chenu, ce discours manque d'ambition et ne donne ni délai, ni calendrier, ni mode de financement. Concernant la réforme des retraites, François Bayrou remet donc le dossier entre les mains des partenaires sociaux. Les organisations syndicales se réunissent demain pour évoquer justement ce dossier retraite. Et d'ores et déjà, tout comme au sein du NFP, les dissensions naissent, notamment entre la CGT et la CFDT. Le syndicat majoritaire semble satisfait de l'ouverture prochaine de discussions avec l'ensemble des organisations patronales et syndicales. Yvan Ricordeau, secrétaire général adjoint de la CFDT.
La CFDT attendait une suspension de la réforme des retraites. Le Premier ministre a annoncé dans son discours à l'Assemblée nationale qu'il mettait en quelque sorte la réforme des retraites sur pause. Et donc pour la CFDT, c'est une vraie fenêtre d'opportunité pour discuter de l'ensemble des points, de l'ensemble des paramètres du système des retraites. On n'avait encore jamais entendu ça. Et donc la CFDT va se saisir de cette opportunité pour porter ses revendications prioritaires. Et on a entendu pendant le mouvement et les manifestations de 2023, notamment les travailleurs qui avaient des métiers pénibles et les femmes qui ont des carrières hachées ou sur lesquelles il y a des interruptions de carrière pour les femmes, être un peu au devant du mouvement social. Et donc la CFDT va faire en sorte de porter ces messages-là pour trouver des droits nouveaux, pour prendre en compte la pénibilité et pour réparer les carrières des femmes. Ça sera deux mesures de justice sociale qui illustreront comment on peut revenir sur l'âge légal de départ à 64 ans. Donc il y a beaucoup de revendications à porter pour améliorer la réforme de 2023. C'est le sens de l'engagement de la CFDT à l'issue du discours de politique générale présenté par François Bayrou.
Yvan Ricordeau de la CFDT répondait à Wafia Kenich. Le discours de politique générale du Premier ministre dessine-t-il une sortie de crise politique? C'est la question du soir que posera Quentin Lafay à ses invités à 18h20. La relance du nucléaire français ne doit pas se faire à n'importe quel prix. La Cour des comptes demande à l'État et à EDF de lever les nombreuses incertitudes avant de poursuivre le vaste programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaire EPR. Bonsoir Véronique Reberotte.
Bonsoir.
Le financement de ces nouveaux réacteurs est en effet jugé trop flou.
Flou incertain avec quelques dérives financières récentes que la Cour des comptes a à l'esprit. L'EPR de Flamanville, dont le calendrier et le coût a explosé par rapport au devis initial de 3,3 milliards d'euros. La Cour des comptes chiffre son coût final à 22,6 milliards d'euros avec une rentabilité médiocre. Et les craintes sont similaires pour le futur programme de construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2 dans lequel la France souhaite désormais s'engager. Leur coût a déjà flambé de 30% avant la moindre pierre posée. De 51,7 milliards à 67,4 milliards. Pour le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, ces risques de dérive sont loin d'avoir disparu.
Ce sont des projets sur lesquels il reste encore beaucoup à faire pour comprimer les délais, pour réduire les coûts, et aussi tout simplement pour faire des calculs de rentabilité qui, à ce jour, ne sont pas produits. Et la Cour fait un calcul par elle-même, puisqu'on ne lui donnait pas les chiffres, et elle aboutit à une rentabilité qui, en réalité, est extrêmement faible, qui est même inférieure au coût de la ressource financière. Mais ça fait partie des sujets sur lesquels nous devons continuer d'avancer avec EDF, et sur lesquels EDF doit continuer d'avancer avec la tutelle. Pour l'instant, financièrement, ça reste extrêmement coûteux, et donc on est toujours sur un fil. Ce sont des enjeux qui se chiffrent, en effet, par dizaines de milliards d'euros. C'est donc une question très importante pour la France. C'est une question très importante pour les Français, dans la mesure où, in fine, tout ça repose sur l'effort des contribuables, les citoyens.
La Cour des comptes recommande également de limiter l'exposition financière d'EDF dans des projets d'EPR à l'étranger, qui connaissent eux aussi quelques déboires, et de s'assurer aussi que tout nouveau projet international nucléaire ne ralentisse pas les calendriers en France. Une recommandation que semble approuver le PDG d'EDF. Il l'a fait savoir ce matin au dernier moment.
Véronique Reberotte. La confiance des Français dans les médias est en baisse. Selon le 38e baromètre La Croix Verrian La Poste, présenté au festival Média en scène à Paris, 3/4 des sondés affirment suivre l'actualité avec un grand intérêt, mais ils sont 62% à penser qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. C'est 5 points de plus qu'en 2023. Cette année, Pierre Roper, le baromètre s'attarde tout particulièrement sur le recours à l'intelligence artificielle par les médias, une pratique qui divise les Français.
L'intelligence artificielle dans les médias dégradera la qualité des informations fournies. C'est ce qu'estime près de la moitié des sondés de ce baromètre, quand 29% d'entre eux pensent plutôt que l'IA améliorera l'information. Dans l'ensemble, ce sont les jeunes qui font le plus confiance à l'intelligence artificielle, contrairement à leurs aînés. C'est d'ailleurs le principal constat que dessine ce baromètre, il existe un véritable clivage générationnel sur ce sujet. Par exemple, sur la question de l'automatisation de la production de certains types de contenus dans les médias grâce à l'IA, tels que les articles courts, les reportages simples ou encore les bulletins météo, chez les 18-24 ans, plus de la moitié des personnes sondées sont favorables à cette idée. A l'inverse, chez les 65 ans et plus, la tendance est tout autre, plus de 20% d'entre eux sont contre son utilisation. Au total, sur le millier de personnes interrogées, 4 sondés sur 10 se disent donc opposés à l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins de production de contenu. C'est un sujet sur lequel les opinions évoluent vite. L'année dernière, selon le même baromètre, seul un quart des Français étaient prêts à lire des articles générés via une intelligence artificielle. Plus globalement, l'IA continue de susciter des craintes, la perte de l'analyse et du regard humain ou encore la création de fausses informations inquiète 40% des sondés. À l'heure où une personne sur deux estime être confrontée plusieurs fois par jour à la désinformation sur les réseaux sociaux, il incombe donc aux médias de faire preuve, plus que jamais, de transparence dans l'adoption de ces technologies.
Pierre Roper. Après 15 mois de guerre, va-t-il y avoir une trêve à Gaza ? Le Qatar a affirmé que les discussions sur un accord de cessez-le-feu progressif étaient au stade final. Il y aurait une trêve de 42 jours, la libération de 33 otages contre un millier de prisonniers palestiniens. Thibault Lefèvre, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken affirme que si le Hamas l'accepte, l'accord est prêt à être conclu et mis en œuvre. Mais il semble qu'il y ait encore des réticences côté israélien.
Eh bien, comme depuis le début des négociations il y a plusieurs mois, l'intransigeance de l'extrême droite dont dépend Benjamin Netanyahou pour rester au pouvoir. Les termes de l'accord actuellement sur la table sont les mêmes qu'en mai dernier, quand le Premier ministre avait fait capoter les négociations sous la pression de ses alliés. Aujourd'hui, le contexte a changé avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et la perte d'influence de l'Iran dans la région. Mais l'extrême droite n'a, elle, pas changé de ligne. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ce matin, dans une vidéo envoyé sur les réseaux sociaux.
L'accord en cours de négociation est un plan de capitulation face au Hamas. Je demande à mon ami, le ministre Bezalel Smotrich, de coopérer avec moi pour s'y opposer. Ensemble, nous pouvons aller voir le Premier ministre et lui dire que s'il valide le deal, nous démissionnerons et sortirons du gouvernement.
Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich pourraient donc faire tomber ensemble la coalition au pouvoir. À voir si le ministre des Finances décide de rejeter l'accord tout en restant au gouvernement ou s'il emporte avec lui un Premier ministre qui a tenu tête pendant des mois à Joe Biden mais a immédiatement plié face à Donald Trump.
Thibault Lefèvre à Jérusalem. L'Ukraine a lancé la nuit dernière une attaque massive contre des sites énergétiques et industriels sur le territoire russe. Alors, ce n'est pas la première attaque ukrainienne de ce genre, mais c'est de très loin la plus importante depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a 3 ans. Moscou accuse Kiev d'avoir à cette occasion utilisé des missiles occidentaux. Les explications de notre envoyé spécial en Ukraine, Claude Guibal.
L'attaque simultanée a touché plusieurs cibles, parfois proches, une centaine de kilomètres, mais aussi d'autres à plus de 1000 kilomètres de la frontière, des réserves de carburant, mais aussi, selon Kiev, des usines chimiques produisant des explosifs et d'autres sites industriels fabriquant des composants pour l'artillerie ou l'aviation, comme l'usine de Selso dans la région frontalière de Bryansk, décrite comme une installation stratégique du complexe militaro-industriel russe, des stocks de munitions, des raffineries ciblées pour entraver la logistique de l'armée russe. Selon les analystes ukrainiens, l'attaque contre les dépôts de carburant pourrait perturber à l'avenir l'approvisionnement des avions qui transportent les redoutables FAB, les bombes planantes guidées qui provoquent des dégâts considérables en Ukraine. Selon l'armée russe, tous ces missiles auraient été interceptés. Ce sont les débris qui auraient provoqué ces dégâts. Fin novembre, l'Ukraine a utilisé pour la première fois ces missiles occidentaux. La Russie a promis de terribles représailles chaque fois que l'Ukraine frapperait la Russie avec ses armes.
Les pays de l'OTAN, riverains de la mer Baltique et le secrétaire général de l'OTAN se sont réunis aujourd'hui à Helsinki pour parler sécurité suite aux différents incidents qui ont eu lieu ces derniers mois quand des câbles électriques et de communication ont été endommagés au fond de la mer. Des actes de guerre hybride imputés à la Russie. Les alliés ont donc décidé de mettre sur place une sorte de police des mers, Marielle Vituro.
Le dernier incident a eu lieu le jour de Noël entre la Finlande et l'Estonie. Un câble électrique a été sectionné. Les patrouilles de l'OTAN, qui ont commencé il y a 2 ans pour sécuriser la mer Baltique, vont s'intensifier a annoncé le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. C'est la mission Sentinelle Baltique.
Cela inclura toute une série de moyens, notamment des frégates et des avions de patrouille maritime pour renforcer notre vigilance dans la Baltique. Nous avons aussi convenu de lancer une initiative visant à déployer de nouvelles technologies, notamment une petite flotte de drones navals pour renforcer la surveillance et la dissuasion.
L'autre menace dans la région est la flotte fantôme russe. Ce sont des tankers qui transportent sous pavillon étranger les hydrocarbures russes qui sont sous le coup de sanctions de l'Union européenne. L'écosystème de la mer Baltique est déjà très fragile et serait en péril en cas de marée noire. Kristen Michal, le premier ministre estonien.
Depuis début juin, nous avons contrôlé plus de 300 tankers. Nous sommes montés à bord de 7 d'entre eux. Ce sont des revenus pour la Russie pour mener à bien cette guerre hybride.
Mais en matière de protection, les pays riverains doivent aussi y mettre du leur, comme diversifier les sources d'approvisionnement en électricité. Plusieurs experts estoniens ont noté que Tallinn avait des efforts à faire. Il faut aussi qu'ils investissent plus dans leur propre sécurité. En Lituanie, un accord a été passé entre le ministère de l'Intérieur et la société en charge des réseaux électriques.
Marielle Vituro, correspondante de France Culture dans les pays baltes. Nous allons maintenant en Afrique du Sud, où une opération de sauvetage est en cours dans une mine d'or abandonnée de la ville de Stilfontein, au sud-ouest de Johannesburg. La police avait bouclé l'accès à cette mine depuis des mois et comptait arrêter les mineurs illégaux à leur sortie. Mais le gouvernement, sur ordre de la justice, a dû déployer cette opération de sauvetage pour les aider à remonter. Depuis hier, 82 mineurs ont pu être évacués en vie et 36 corps ont été extraits de la mine. Le reportage de Claire Bargelès.
Zinzi suit les mouvements de la cage qui a été assemblée pour descendre au fond du puits afin de récupérer ces mineurs illégaux. Des survivants remontent toutes les heures, des corps sans vie aussi, mais jusqu'à présent, aucune trace de son frère de 26 ans.
Il est là-dessous depuis juillet. On nous a dit qu'il n'était pas en très bonne forme, mais l'homme qui était avec lui l'a vu pour la dernière fois il y a 2 semaines. Est-ce que les criminels n'ont pas eux aussi le droit à la vie ?
Ces mineurs sont désormais très affaiblis puisqu'ils n'ont eu qu'un accès limité à des vivres. On estime qu'ils sont encore plusieurs centaines à se trouver sous terre. Manas Fouri est à la tête de la société privée chargée de l'opération de sauvetage.
C'est une opération dangereuse qui se déroule au bord d'un trou d'environ 2,6 km de profondeur. Nous allons pour l'instant continuer à ce rythme de 6h du matin à 10h du soir. Mais si nous obtenons davantage de ressources et que le problème continue, nous pourrons envisager de travailler 24h sur 24.
Pour Mzuki Sijam, porte-parole de l'organisation de la société civile Sanko, et pour les membres de la communauté rassemblés sur place, la situation n'aurait jamais dû s'envenimer ainsi.
C'est une opération de sauvetage enfin organisée après qu'un massacre se soit déroulé. Nous pensons que cela aurait pu être évité.
Le ministre des Mines qui a fait le déplacement est lui resté inflexible, affirmant vouloir continuer la lutte contre ces activités illégales menées par des étrangers des pays voisins.
Claire Bargelès, correspondante de RFI et France Culture en Afrique du Sud. Avant de refermer ce journal pour parler de nouveau politique, revenons un instant sur l'éclatante victoire de Charlie Dalin au Vendée Globe. Le skipper normand a passé en mer 64 jours, 19h, 22 minutes et 49 secondes. Ce faisant, il a pulvérisé le précédent temps de référence de l'épreuve. Cet exploit, Jérôme Val, il le doit en partie à son voilier à foil, dernière génération, ultra rapide et très polyvalent.
La recette d'un Vendée Globe réussi, c'est le bon alliage entre un bateau performant, un marin doué et une stratégie audacieuse. Et pour son deuxième tour du monde, Charlie Dalin a réuni les trois ingrédients. Lui qui, depuis 1447 jours et sa deuxième place lors de la précédente édition, ne pense qu'à cette échéance. 4 ans où il a imaginé avec son équipe son nouveau bateau, ce monocoque équipé de foil, capable de voler et taillé pour affronter tous les océans de la planète. Et force est de le constater, sa monture n'a pas subi d'avarie majeure au cours de ses 64 jours en mer. Rien qui ne l'a empêché d'afficher des vitesses folles, une moyenne de 33 km/h, 2 fois plus vite que celle de Titon Lamazou pour le premier Vendée Globe en 1990. Et puis pour réussir, il faut oser. Et Charlie Dalin n'a pas hésité quand, au large des Kerguelen dans l'océan Indien, il a décidé d'aller droit dans une énorme dépression quand ses concurrents ont préféré la contourner, choix payant qui lui a permis de s'installer aux commandes du Vendée Globe. Mais pour saluer un vainqueur, il faut enfin un bon deuxième. Et Johan Richomme a joué à merveille le rôle de l'empêcheur de tourner en rond autour de la planète. Incroyable lutte entre les deux marins, ce qui a obligé Charlie Dalin à ne jamais relâcher jusqu'à hier soir le long des côtes bretonnes. Le Normand de 40 ans est le 9e vainqueur d'une course mythique.
Jérôme Val. Un temps gris et très brumeux, mais un peu plus doux, gagnera peu à peu demain tout le nord de la France, jusqu'au Poitou, au Limousin et à l'Auvergne. Plus au sud, le soleil s'imposera. Les gelées seront encore bien marquées au lever du jour, jusqu'à moins 8 en Auvergne. Les maximales atteindront 4 à 8 degrés en général, 10 à 15 degrés dans les régions méditerranéennes.